Dans l'ordre du monde, focus sur les drones qui sont au cœur de la guerre en Ukraine. On va voir comment les Ukrainiens ont innové jusqu'à créer une nouvelle doctrine qui chamboule les champs de bataille.
Et face à la stratégie ukrainienne, quelle est la réponse côté russe? Est-ce que Vladimir Poutine perd un peu ses nerfs? En tout cas, il est loin de son ambition du début du conflit, celle d'une victoire totale. Donc il intensifie ses frappes alors que sa popularité en Russie, elle baisse.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti.
Salut Annalisa.
Salut Mathieu, je suis contente de te retrouver parce que la semaine dernière, tu n'étais pas là, c'est Margot Fodéré qui m'a accompagnée dans les profondeurs des eaux du détroit d'Ormuz. Alors, si jamais vous regardez la version vidéo de ce podcast, juste en nous voyant, en voyant notre couleur de peau respective, vous savez qui, qui a travaillé la semaine dernière.
Qui a pris quelques jours de congé. Voilà. Tu m'envoies désolé. En tout cas, tu m'as manqué, ce podcast m'a manqué.
Écoute, je
même au fin fond du Péloponnèse.
Surtout que tu reviens avec énormément de sujets dans ta besace,
ouais.
Et puis avec un sujet, je le sais, qui te passionne énormément, parce que tu veux nous parler de l'innovation de ce moment en Ukraine. Là, on s'est beaucoup concentré ces dernières semaines sur le front iranien. Là, on se déplace, on revient sur le front européen, sur le front ukrainien. Et donc, ça change quoi, tout ce qui se passe en ce moment sur les drones en Ukraine?
Ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une tactique ukrainienne en ce moment, même depuis 4 ans, c'est de automatiser les frappes et de droniser le champ de bataille. En fait, il faut voir qu'il y a une filière industrielle des drones qui s'est structurée à une vitesse grand V sur le terrain ukrainien. Ce qui s'est passé, c'est que les Ukrainiens, quelque part, ils ont été condamné à innover, et c'était ça ou mourir. Et ça, c'est ce qu'expliquait un des meilleurs stratèges militaires français, qui est l'amiral Pierre Vandier. Il est en charge de toute la transformation au sein de l'OTAN, et j'ai été l'écouter il y a 10 jours. Il était invité à une conférence organisée par la revue géopolitique Le Grand Continent. Écoutez-le.
Ils ont inventé la guerre des drones parce qu'ils n'avaient rien d'autre. C'était ça ou mourir. Donc ils ont commencé par mettre des grenades et des têtes de roquettes sous des drones qu'ils ont achetés chez Carrefour, des drones DJI, etc. Puis petit à petit, ça s'est institutionnalisé. J'ai visité une usine à Kiev, une puéricultrice de 29 ans qui dirige une équipe de 1000 personnes, donc qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui fait 3000 drones par jour.
Donc tu vois, quand on entend cette anecdote de l'amiral Pierre Vandier, on se rend compte qu'il y a une sorte de super agilité de la part de toute la société civile ukrainienne, hein. Ce n'est pas que les militaires. Et ce terrain ukrainien, c'est vraiment devenu le laboratoire mondial de la guerre moderne, avec au cœur de cette guerre moderne, eh bien, les drones. On a vu ces dernières semaines aussi des experts ukrainiens s'envoler en urgence dans la région du Golfe, pour voir les pays du Golfe, pour les conseiller sur l'utilisation des drones contre la menace des frappes iraniennes. Et en fait, ils sont arrivés, ces experts, avec en tête, je t'offre mon expertise, en retour, j'aimerais bien avoir un peu d'argent pour financer mon effort de guerre en Ukraine.
Mais par exemple, quand tu parles d'innovation dans les drones, concrètement, ça ressemble à quoi sur le terrain?
Eh bien, il y a eu beaucoup de nouveaux drones qui sont testés sur place. Par exemple, il y a un nouveau système de défense anti-drone qui s'appelle MEROPS, qui a été développé par une entreprise fondée par Eric Schmidt, hein, qui est l'ancien PDG de Google. Il y a aussi le drone Bullet, hein, qui a été inventé en Ukraine. Ça, c'est un drone anti-drone. En fait, c'est un drone kamikaze qui va se jeter sur les redoutables drones iraniens Shahed.
C'est de la défense pure.
C'est de la défense pure, ce drone Bullet. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence aussi, c'est qu'il ne coûte que 1 000 $. Et ça change totalement la donne par rapport au système de défense anti-aérien traditionnel occidental qui, là, peut coûter des centaines de millions, voire des millions de dollars si tu parles des missiles Patriot, même si la comparaison n'est pas la meilleure, puisque les Patriot, c'est vraiment des trucs de très longue portée. Mais quand même...
Et c'est un peu une défense d'appoint qui peut servir sur quelques terrains un peu plus complexes ou
exactement.
Plus agiles, et du coup,
exactement.
C'est un bon complément.
Mais en revanche, les milliers de drones low cost que tu jettes et qui peuvent saturer une défense anti-aérienne, ça c'est nouveau. Et c'est une logique un peu de défense aérienne jetable, hein, qu'ont inventé les Ukrainiens et que le monde entier est en train de regarder pour recalibrer ses doctrines militaires. On produit beaucoup, on produit pas cher. Il y a aussi un autre drone qui s'appelle le Bumblebee, qui est testé en Ukraine depuis un an. Il est guidé, lui, par l'intelligence artificielle. Il a un logiciel autonome. Ça c'est important aussi parce qu'il est insensible au système de brouillage. C'est une nouvelle donne de la nouvelle guerre, hein, la guerre électronique et de brouillage.
On va en reparler. parler de ça.
Bah voilà. Et donc, voilà. Donc lui, il passe à travers, et donc il a sa cible en vue, il se jette dessus de manière autonome, et il n'y a pas d'intervention humaine. Il y a un dernier type de drone dont je voulais te parler, ce sont les drones Hornet, qui sont assez redoutables. Il y a de plus en plus de vidéos postées par les militaires, où on voit ces Hornet cibler, verrouiller leur cible sur leur face finale, et en fait, on voit qu'ils verrouillent les camions militaires russes jusqu'à... Ils ne les lâchent plus jusqu'au moment fatal, en fait. Hein. Et aujourd'hui, tu as sur le terrain les Ukrainiens qui utiliseraient 30% de drones d'attaque de plus que les Russes. Et puis le dernier point là-dessus, c'est que tu as quand même, sur le plan psychologique, tactiquement, les Ukrainiens, et on l'a vu la semaine dernière avec cette attaque spectaculaire avec des centaines de drones ukrainiens qui ont été beaucoup plus loin et un peu partout en Russie, frapper des villes, c'est que...
Jusqu'à Moscou.
Jusqu'à Moscou, exactement. C'est qu'en fait, là, on n'est plus sur la tactique psychologique. Ils veulent amener la guerre dans le quotidien des gens et dans le quotidien des Russes. Et ça, c'est vraiment au cœur aussi de la tactique ukrainienne, c'est de frapper les esprits pour que les Russes se rendent compte que la guerre, elle est là au quotidien.
Bien sûr, c'est un gros changement de la part des Ukrainiens qui exportent donc la guerre de l'autre côté, finalement, pour impliquer aussi les Russes. Une question. Quand on parle de tous ces drones qui se créent, bah évidemment, c'est une industrie qui n'existait pas il y a 4 ans. Comment ça s'organise tout ça?
Est-ce que c'est il faut se rendre compte qu'en Ukraine, c'est devenu une véritable fourmilière d'industriels des drones en 4 ans. Et sur place, ils y sont tous, hein, les industriels, les Turcs, les Américains, les Européens, les Israéliens, exactement. Tout le monde est sur place et tout le monde vient tester ces drones. Si bien que tu as même un label, ça c'est officieux, mais tu as un label tacite testé en Ukraine qui est devenu un véritable faire-valoir sur les appels d'offres pour vendre ces drones en disant « Regardez, moi, je l'ai testé en Ukraine, c'est très valable. » Voilà.
C'est terrible, mais ça veut dire que ça marche. En effet,
ça marche.
Du point de vue purement business.
Oui, c'est ça. Mais sauf que ça allait tellement vite que ça a été un peu le bordel aussi. Hein. Et ça, je me rappelle, en septembre dernier, c'était dans le quotidien ukrainien qui s'appelle le Kyiv Post, un haut gradé américain qui était en train d'alerter en disant « Attention, c'est un grand bazar qu'a pris cette fourmilière ukrainienne. » Il expliquait que chaque industriel testait sa nouveauté sur place. Donc ça, c'est très bien. Mais ensuite, il repartait avec pour la vendre ailleurs. Il prônait une coopération industrielle pour essayer d'organiser, de structurer cette filière des drones. Et c'est dans ce contexte qu'il y a 8 mois, en prononçant son discours sur l'état de l'Union européenne, Ursula von der Leyen a annoncé en grande pompe la création d'une alliance des industriels européens des drones, en mettant 6 milliards sur la table. Sauf que là-dessus, alors pour l'instant, je ne les ai pas eu encore au téléphone, mais je trouve ça étonnant, c'est que 8 mois plus tard, je me rends compte sur le site de la Commission européenne que l'Union vient à peine, là le 25 mai, de clôturer un appel à candidature pour les industriels européens qui veulent être membres fondateurs de cette alliance.
Ah oui, donc ça avance tout doucement.
8 mois plus tard, ouais, c'est ça.
Et donc les Ukrainiens avancent très vite, nous on avance comme souvent en Europe à notre...
Il faut regarder où en est cette alliance, je me trompe peut-être, si ça se trouve ça va plus vite que je le pense, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une pesanteur.
Les Américains, ils font quoi?
Les fabricants américains, eux, ils assemblaient avant la guerre en Ukraine environ, ils produisaient 100 000 drones par an. Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop faible, qu'il fallait beaucoup plus vite, et le Pentagone compte multiplier par 3 ou 4 cette production et passer à 340 000. Pour ça, pour augmenter la cadence, Donald Trump a signé un décret présidentiel dans le bureau ovale il y a un an, le 6 juin dernier. Et en avril dernier, tu as aussi le Pentagone qui a demandé une rallonge budgétaire, figure-toi, de 75 milliards de dollars juste pour les drones et la défense anti-drone. Mais 75 milliards, c'est plus que notre budget de la défense en France. Et ça, c'est que pour les drones, pour te dire que ça va très loin. Et dernier chiffre qui frappe vraiment les esprits là-dessus, tu vois que donc l'ambition de la première puissance militaire au monde, les États-Unis, c'est de passer à 340 000 drones par an. Tu sais combien ils en produisent cette année en Ukraine?
Dis-moi.
7 millions.
Ah oui, c'est quand tu parles de
7 millions,
de production
de, et de laboratoire, c'est ça. C'est-à-dire que là, ils en produisent 20 fois plus en Ukraine.
Oui.
Que les ambitions de la première puissance militaire au monde.
En fait, moi, ce qui me frappe dans ce que tu me racontes, c'est que on a un élément de guerre qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été vraiment amélioré ces dernières années et qui a complètement changé le terrain militaire. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on aurait sans doute pas imaginé oui. un terrain militaire comme celui-là.
Voilà, et là-dessus, il y a peut-être un dernier point, je voulais te relater ça, parce que j'ai entendu ça, ça vient d'un des plus grands spécialistes au monde de la Première Guerre mondiale, que j'écoutais et qui racontait une forme de régression historique qui est liée au progrès technologique en Ukraine. De quoi il parle, en fait ?
De régression ?
De régression, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, un des plus grands progrès, expliquait-il, de la guerre contemporaine, de la guerre moderne, c'est l'hélicoptère, d'accord ? Depuis 1945. Pas l'hélicoptère de combat, mais l'hélicoptère en tant qu'outil sanitaire. L'hélicoptère qui va sur le terrain s'occuper des blessés. Et on a pu le voir notamment pendant la guerre au Vietnam. Pour la première fois, on pouvait prendre en charge des blessés. Et en moins de 20 minutes, ils sont ramenés sur une table d'opération. Et ça, ça a totalement changé la donne. Sauf qu'avec ces essaims de drones pilotés par l'IA sans intervention humaine, qu'est-ce qui se passe en Ukraine ? On ne peut plus faire venir les hélicoptères sanitaires. Et donc, on en arrive à ce point où, aujourd'hui en Ukraine, le taux de blessés rapportés aux morts est revenu au même niveau que celui de la Première Guerre mondiale.
Oui, c'est-à-dire que si tu te blesses, t'as énormément de chances de rester sur le terrain.
Exactement, mourir. Exactement. Et donc, si tu veux, c'est assez troublant, je trouve, parce que là, tu as tout le monde se dit, oh là, c'est extraordinaire, cette technologie, cette innovation sur place, etc. N'empêche que là, c'est un exemple où ça nous ramène à une forme de régression historique. Et j'imagine aussi que c'est un des éléments, cette guerre des drones et l'IA, que le pape Léon XIV avait en tête quand il a publié sa première encyclique en début de semaine, où il y a tout un chapitre qui a été très commenté, qui est consacré uniquement à l'IA, et où il lance ce message au monde entier, et il dit « il faut désarmer l'intelligence artificielle ». Je pense qu'il a aussi la guerre des drones en tête.
Très intéressante cette encyclique, que d'ailleurs il faut lire, parce qu'elle nous explique toute la position du Vatican, qui, il ne faut pas l'oublier, le Vatican est un acteur géopolitique parmi d'autres.
Exactement.
Ça nous permet de comprendre la position du Vatican là-dessus.
Et alors toi, Annalisa, on va rester sur ce terrain des drones aussi, parce que tu voulais nous en parler de ces drones au sein de ce conflit, de cette guerre en Ukraine, mais vu de Russie.
Oui, parce que toi, tu nous as parlé de la stratégie ukrainienne dans la guerre. Moi, je vais vous parler de la stratégie russe. Et les Russes aussi, ils utilisent les drones, mais différemment. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ces dernières semaines des incidents relatifs aux drones dans les pays baltes, donc en Estonie, en Lituanie. Il y a eu une alerte aérienne la semaine dernière à Vilnius, donc dans la capitale lituanienne, qui a obligé les habitants à se réfugier dans les abris. Donc on a vu les habitants, le président, le premier ministre, tous dans les abris. C'est quand même des scènes assez frappantes. Il y en a eu d'autres de drones qui ont explosé sur un site de stockage de pétrole en Lettonie, un autre qui a été abattu en Estonie.
Mais c'est quoi ça? C'est des intimidations russes?
Exactement, ouais. Mais c'est, selon la plupart des experts européens, y compris la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ce sont des drones qui proviennent de Kiev qui essaye de viser des cibles russes, donc des cibles considérées comme légitimes par les Ukrainiens. Et en fait, les Russes arrivent à les faire dévier de leur trajectoire grâce au brouillage électronique dont tu nous parlais il y a un instant. Donc tu vois ce brouillage qui sert encore une fois à
dévier de leur trajectoire et finalement...
Et en plus, à les faire atterrir sur des
et donc, vu de Russie, ça veut dire que l'ennemi en vient à frapper sa propre population, quoi.
Exactement. Et donc, c'est aussi une intimidation, bien sûr, sur les Européens. Ça sert aussi à leur rappeler que, finalement, le conflit ukrainien est toujours là et qu'il risque toujours de déborder sur notre territoire à nous, sur le territoire de l'Union Européenne. Donc, c'est pour ça que Ursula von der Leyen a annoncé cette semaine un soutien supplémentaire pour la défense, pour ces trois pays, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, qui sont en première ligne, hein, vraiment face à la menace russe, qui vont recevoir 12 milliards d'euros supplémentaires. C'est le programme SAFE, tu sais, le programme de défense de l'Union européenne. Donc voilà, on débloque ces nouveaux fonds parce qu'on sent que la menace russe, elle est encore là et qu'il s'agit d'une question évidemment très symbolique d'arriver à défendre notre ciel des drones ukrainiens, russes,
ukrainiens. Et je t'en parlais juste avant, donc les Ukrainiens qui intensifient encore leur production de drones et qui font des attaques de plus en plus spectaculaires, là-dessus, comment réagit Vladimir Poutine? Lui, j'imagine que il intensifie aussi de son côté les frappes.
Exactement, et en fait, c'est un peu contradictoire parce que ces dernières semaines, on sent plutôt une ouverture de la part du Kremlin, du moins sur des pourparlers, sur des négociations avec les Européens, et en même temps, sur le terrain, le Moscou intensifie en réalité les frappes sur l'Ukraine. Il y a eu une frappe de missile balistique sur Kiev, ça faisait quelques temps que ça n'était pas arrivé, que ça n'avait pas causé autant de morts. Et puis, c'était dimanche dernier, la Russie a lancé son missile Oreshnik. Je pense que tu as dû en entendre parler, ouais, parce que beaucoup de médias ont parlé de ce missile Oreshnik. C'était dans un oblast de Kiev, donc dans les alentours de la capitale ukrainienne. Et en fait, l'utilisation de ce missile est vraiment très symbolique. Pourquoi ? Parce que c'est un missile extrêmement puissant, il va extrêmement vite, il va 10 fois la vitesse du son, t'imagines ce que ça donne. Il est très difficile à intercepter, donc, et il est capable de transporter des ogives conventionnelles et des ogives nucléaires.
Donc, ah, c'est ça surtout, quoi, le symbole.
Exactement. Donc, c'est seulement la 3e fois que la Russie l'utilise depuis le début du conflit, et ça témoigne quelque part. Cette frappe n'avait pas d'intérêt spécifique d'utiliser l'Oreshnik. Il n'y avait pas d'intérêt spécifique de choisir ce missile-là.
Si ce n'est que Vladimir Poutine, j'imagine, est en colère et rappelle aux Ukrainiens, à l'Europe, que c'est une puissance nucléaire.
Exactement, c'est une puissance nucléaire. Et ce missile, il existe encore. C'est un des plus puissants de l'arsenal russe. Et ça répète effectivement l'idée que... si la Russie se fâche contre les Ukrainiens, non, c'est toujours le discours chez les Russes, c'est que pour l'instant, la Russie n'a pas déployé toute sa puissance, qu'elle a encore des cartes à jouer, y compris la carte nucléaire, bien évidemment, mais qu'elle est prête à le faire, à sortir ses armes si l'Ukraine les provoque, si l'Ukraine les énerve.
Ouais. Après on a appris il n'y a pas longtemps quand Xi Jinping a reçu Trump puis Poutine, le Xi Jinping aurait dit à Trump, juste avant de recevoir Poutine, que Poutine, selon lui, allait peut-être regretter son aventure en Ukraine. Donc exactement. C'est un signal faible de plus sur est-ce qu'il est en train de s'enliser et tout. Mais c'est peut-être contre-intuitif, il intensifie quand même ses frappes.
Oui, en même temps, du coup, c'est un peu le moment de montrer qu'il y a encore une force, qu'il y a encore une capacité d'escalade pour essayer d'avoir du poids aussi dans les négociations. Et en même temps, quand on regarde sur le terrain, c'est la première fois depuis le mois d'août 2024, donc près de 2 ans, que la Russie perd plus de territoire qu'elle n'en gagne, purement sur le terrain. On parle de broutilles, hein, en termes de terrain réel, mais effectivement, ça fait des morts, ça fait des victimes, c'est des mois et des mois d'une guerre qui dure. Et tu le disais, effectivement, les Ukrainiens mettent autant de drones sur la ligne de défense qu'en fait, les Russes n'arrivent plus à avancer. Moscou avançait avant de 70 mètres par jour, en moyenne. Ce n'est vraiment pas beaucoup, mais c'était déjà ça, 70 mètres par jour.
Et on parle de 30 à 40 000 pertes, hein, morts ou blessés par mois.
Exactement.
C'est côté russe.
Elle payait quand même le prix fort. Et aujourd'hui, la ligne de front est tellement saturée de ces drones ukrainiennes que même cette petite avancée est impossible. Donc, ça explique aussi pourquoi Poutine renchérit dans son discours très agressif. Tu sais, le Kremlin a exhorté aussi les diplomates occidentaux à quitter Kiev parce que dans les prochains jours, il pourrait y avoir des frappes. On ne sait pas, nous on enregistre ce podcast jeudi à la mi-journée, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ça pourrait être aussi simplement un discours d'intimidation. En réalité, ce que je lisais dans le New York Times, c'est une chercheuse, Tatiana Stanovaya, qui raconte que l'avantage militaire que les Russes ont toujours eu par rapport aux Ukrainiens, c'est ce qui a fait que les Ukrainiens ont été forcés de développer les drones, puisque c'était ça.
Ça ou mourir, oui.
En réalité, ça commence à s'amenuiser de manière très progressive, mais tout de même, c'est la direction que ça prend. Et donc, que les Russes se posent une question, est-ce qu'il n'est pas temps d'intensifier les hostilités maintenant? Parce que, en fait, après, on ne pourra plus. Et surtout, le but, c'est de créer une pression psychologique sur toute l'élite ukrainienne pour essayer de leur dire, on est encore là, on est encore plus fort qu'avant.
Ouais, c'est ça, il y a vraiment une guerre psychologique, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, les Ukrainiens qui disent qu'ils veulent amener la guerre dans le quotidien des Russes, les Russes qui veulent bousculer l'élite ukrainienne en disant attention, on est une puissance nucléaire. Et ce que tu nous expliques aussi, c'est que donc là en ce moment, Vladimir Poutine il perd 70 mètres régulièrement, mais il perd des petits bouts de terrain, il y a de plus en plus de soldats russes qui tombent. Comment réagit la société russe?
Eh bien, plutôt mal. Hein. Il y a des sondages qui sont des sondages d'État, bien sûr, donc il faut les prendre avec des pincettes, mais ils montrent que le taux d'approbation de Vladimir Poutine chute. Il ne serait plus qu'à 65%. Évidemment, ça nous paraît toujours...
Ouais, mais même si les sondages d'État le disent, c'est que...
Exactement. En sachant que ça dépassait les 80% avant la guerre. Donc il y a effectivement un effet d'essoufflement peut-être du soutien à Vladimir Poutine de la part de la population russe. Tu le disais aussi, les deux armées sont à bout de souffle. Hein, ça fait quatre ans qu'ils se battent. Et puis, on en parlait dans le sommaire, Poutine aurait abandonné son objectif premier, qui était celui d'une victoire totale. Tu te rappelles, il parlait d'une victoire totale contre l'Ukraine. Et bien là, on a des déclarations de Kaupo-Rossin, qui est le chef du service de renseignement extérieur estonien, qui a parlé à CNN la semaine dernière et qui dit qu'il n'entend plus parler de victoire totale au Kremlin et que même au Kremlin, on reconnaît que la situation sur le terrain ukrainien n'est pas favorable. Donc, quelque part, la situation change. Il y a un renversement dans le
moral. Revoir ses ambitions à la baisse, chercher à sortir par le haut. Quelque part, ça ressemble à ce qui se passe avec Trump en Iran, même si là, on parle d'un conflit ouvert il y a 3 mois. Mais
il y a toujours ce côté de quelqu'un qui s'est engagé dans une guerre et qui ne pensait pas que ça se passerait comme ça sur ce front-là. Et puis, il y a aussi l'économie.
Ouais, c'est ça.
C'est toujours ce qui nous intéresse un peu chez BFM Business. Mais le Kremlin commence petit à petit à reconnaître quelques faiblesses sur le front économique. Vladimir Poutine a reconnu, tu te rappelles, il y a quelques semaines que l'économie russe ralentit. Et donc, il y a quelques jours, Moscou a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année, les faisant passer de 1,3% à 0,4%. Toujours sur une croissance, mais une croissance très très modérée. Et puis, c'est une info de ce matin, puisque le rouble russe a atteint son plus haut niveau depuis plus de 3 ans. Et c'est quelque part une mauvaise nouvelle pour Vladimir Poutine. Je le lisais dans les pages du Financial Times, qui citait un expert analyste, Alexander Potavin, qui disait que l'économie russe est axée sur l'exportation. Donc un renforcement significatif de la monnaie nationale, du rouble, fait plus de mal que de bien, puisque un rouble excessivement fort constitue en fait une taxe sur les exportations. Donc oui, le pétrole se porte plutôt bien, effectivement, parce que la guerre en Iran fait que la Russie arrive à vendre plus de pétrole et à le vendre plus cher. Mais ça fait du mal à tout le reste. Et d'ailleurs, sur le pétrole, tu sais, on a beaucoup dit au début de cette guerre que ça allait profiter à Vladimir Poutine.
Oui, le jackpot budgétaire, des recettes.
C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais c'est insuffisant parce que quelqu'un a fait les comptes, ce sont les Suédois, c'est les services de renseignement suédois qui se sont mis à table, ils ont fait les comptes et ils ont calculé que pour avoir un vrai impact sur les finances publiques russes, il faudrait que le pétrole russe, donc le pétrole Oural, ait un prix moyen supérieur à 100 dollars le baril d'ici jusqu'à la fin de l'année. Alors la semaine dernière, le pétrole Oural a frôlé les 95 dollars, donc on s'approche. Mais on n'y est pas encore. Et puis, ce n'est pas dit que ça tienne jusqu'à la fin de l'année, puisque la guerre en Iran semble, à l'instant où on se parle, encore une fois, s'apaiser. Donc, tu vois, finalement, le pétrole qui a beaucoup aidé Vladimir Poutine pendant le premier mois de guerre, le deuxième mois de guerre, en réalité, chaque pas en avant entre l'Iran et les États-Unis représente pour les Russes, une menace directe sur leur principal levier économique dans les négociations.
C'est passionnant ce que tu nous racontes. Et quand je t'écoute, je me dis aussi que quelque part, une fois de plus, on peut se dire que toutes les routes, elles mènent à Xi Jinping.
Et oui,
parce
toujours.
Que c'est finalement qui, au bout du bout, qui est celui qui a les cartes en main, c'est peut-être le voisin et premier client de la Russie.
Toujours.
Et premier acheteur de gaz et de pétrole russe, celui qui peut soutenir son industrie, celui qui a des réserve, celui qui a fait un maillage mondial de son économie, c'est le voisin chinois.
On en parle, on en reparlera de Xi Jinping parce que c'est lui en ce moment qui tire les fils de beaucoup de choses. Dis-moi Mathieu, qu'est-ce que tu surveilles la semaine prochaine? Qu'est-ce qui est dans ton radar?
Alors, sur mon radar, moi je veux surveiller, alors c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 3 semaines, mais tout le monde l'attend. Le sablier est retourné, c'est la Coupe du Monde de foot. Et moi ce que je surveille là-dessus, c'est l'Iran, l'équipe iranienne. Ça débute le 11 juin. Ça c'est vraiment de la géopolitique. Les Iraniens, on l'a appris cette semaine, vont être accueillis par le Mexique parce que Donald Trump a fait savoir que les joueurs d'Iran étaient les bienvenus mais qu'ils ne pouvaient pas garantir leur sécurité sur le sol américain. Et donc, leur camp de base de l'équipe d'Iran sera à Tijuana, ville ô combien symbolique, à quelques kilomètres de la frontière américaine. Et ça, ça va être passionnant à suivre, cette équipe d'Iran, parce qu'il faut voir que, surtout un mondial, chaque mot, chaque geste est scruté. On est au cœur de la géopolitique du foot. Ça peut avoir un écho hyper important. Voilà, il y a eu des rencontres historiques Iran-États-Unis, notamment quand la France l'organisait en 98. Il y avait eu un match au stade Gerland à Lyon. C'était la première fois qu'il y avait un élément sportif diplomatique depuis 19 ans de rupture diplomatique totale, depuis la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran en 79.
Voilà. Et du coup, et ça, c'était le mondial
Ça, c'était le mondial 98. C'est ça, c'était en juin, 21 juin 98, au stade Gerland. Et tu avais même ce jour-là l'équipe iranienne qui avait défié le protocole et qui avait offert à chaque joueur américain un bouquet de roses blanches. Ça, ça avait été une photographie.
Je sens que historique. Tu l'as regardé, ce match.
Ah bah oui. Non, mais là, je l'ai encore regardé. Et derrière, en fait, tu avais Bill Clinton qui était aussi à la manœuvre pour essayer de tendre la main aux Iraniens. Bref, c'est pour ça que ça va être important à suivre. Et surtout, quand on dit que c'est un élément soft power, ça reste quand même l'élément sportif le plus attendu de la planète. J'ai regardé, là, en 2022 au Qatar, la Coupe du Monde avait été suivie par 3,5 milliards de personnes.
La moitié de la planète.
Toi, tu vas suivre quoi sur ton radar?
Je reste sur le continent américain, puisque je vais te parler de la Bolivie. Moi, c'est ça que je surveille, parce qu'en ce moment, en Bolivie, il y a des manifestations incroyables, des blocages routiers massifs qui coûtent d'ailleurs très très cher au pays, mais ce sont les Boliviens qui mettent en place ces blocages routiers, parce qu'ils demandent la démission de Rodrigo Paz, le président. Ils demandent la résolution d'une crise économique qui les plombe depuis des années et des années, avec une crise sur le carburant, avec une crise sur les salaires, avec une inflation à 15%. Bref, une situation économique extrêmement compliquée. Pourquoi je surveille attentivement la Bolivie d'autant plus? Parce que c'est l'un des seuls, Rodrigo Paz, est l'un des seuls alliés de Donald Trump sur le continent américain. Il a perdu Bolsonaro, qui était son grand allié au Brésil. Donc finalement, il a l'Argentine, l'Équateur dans son camp, on va dire les pays qui font basculer un continent, l'Argentine, avec son grand allié Javier Milei. De l'autre côté, le Brésil est gouverné, lui, par Lula, qui est, on va dire, l'opposé de Donald Trump. Donc tu vois, la Bolivie peut en ce moment, si Rodrigo Paz tombe ou pas, faire basculer toute la stratégie pour l'Amérique latine de Donald Trump.
Au cœur de sa doctrine d'Unro, hein, je suis le shérif de tout l'hémisphère occidental, de tout le continent américain et de toute l'Amérique du Sud.
La doctrine Monroe, très clairement, cette semaine, c'est Marco Rubio qui l'a fait en disant nous, on soutient le gouvernement de Rodrigo Paz, c'est le vrai gouvernement élu en Bolivie, et on n'acceptera pas que quelqu'un fasse sauter ce gouvernement sur notre hémisphère. Donc, tu vois. Voilà, donc tout ça pour te dire que le destin du continent américain, sud-américain, donc, est de l'influence de Donald Trump.
Se joue peut-être en Bolivie.
Se joue aussi en Bolivie. Donc, il faut surveiller tout ça. On arrive à la fin, Mathieu ?
Oui, c'est passé trop vite.
Comme d'habitude. Oh, bon. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine.
Exactement.
On aura encore 12 minutes.
Peut-être Xi Jinping. T'as vu, il y a une petite obsession Xi Jinping en ce moment. On va voir. On pourra peut-être.
Entre l'Iran et l'Ukraine, si j'ai bien occupé là. Donc, tu pars plus, hein, s'il te plaît.
Non, je reste avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On est ravis de découvrir et de défricher ce monde géopolitique totalement percuté en ce moment avec vous. Continuez à nous écrire, à vous abonner. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à être là et à suivre l'ordre du monde. Donc c'est un vrai plaisir pour nous de défricher cette géopolitique pour vous.
Évidemment, vous le retrouvez partout, l'ordre du monde. Donc vous avez la version vidéo sur YouTube, vous avez la version audio sur toutes les plateformes de podcast, et puis vous nous retrouvez évidemment aussi sur le site de BFM Business ou sur l'appli BFM directement. Nous, on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Salut Annalisa.
Salut,
au revoir à tous.
Au revoir.